La bibliothèque de mon oncle, deuxième partie. Afin d'utiliser mes vacances, mon oncle m'a conseillé de lire Grotius, pour lire ensuite Pufendorf, pour lire ensuite Burlamaqui, égaré pour le moment. Aussi, je me lève le matin, je vais à ma table, je m'établis, je croise les jambes, puis j'ouvre à l'endroit. Mais voici ce qui m'arrive. Au bout d'une demi-heure, mon esprit ainsi que mes yeux commencent à faire des excursions à droite et à gauche. C'est d'abord sur la marge de l'in-quarto où je gratte un point jaune, je souffle un poil, je détache une paille avec toutes sortes d'ingénieuses précautions. C'est ensuite sur le bouchon de mon encrier, tout rempli de petites particularités curieuses, dont chacune m'occupe à son tour, jusqu'à ce qu'enfin, passant ma plume dans la bouclette, je lui apprive une moelleuse relation qui me réjouit infiniment. Après quoi, volontiers, je me renverse sur le dossier de mon fauteuil, en étendant les jambes et croisant les mains sur ma tête. Dans cette situation, il me devient très difficile de ne pas siffler un petit air quelconque, tout en suivant avec une vague fixité les bonds d'une mouche qui veut sortir par les vitres. Cependant, les articulations commençant à se roidir, je me lève pour faire, les deux mains dans mes goussets, une petite promenade qui me conduit au fond de ma chambre. Là, rencontrant l'obscure paroi, je rebrousse tout naturellement vers la fenêtre, contre laquelle je bats du bout des ongles un joli hurlement où j'excelle. Mais voici un char qui passe, un chien qui aboie, ou rien du tout. Il faut voir ce que c'est. J'ouvre. Une fois là, j'ai éprouvé ce que j'y suis pour longtemps. La fenêtre, oh, c'est le vrai passe-temps d'un étudiant. J'entends d'un étudiant appliqué. Je veux dire qu'il ne hante ni les cafés, ni les vauriens. Oh, le brave jeune homme, il fait l'espoir de ses parents, qui le savent ranger, sédentaire. Et ses professeurs, ne le voyant ni fréquenter les promenades, ni cavalcader dans les places, ni jouer aux tables d'écarté, se plaisent à dire qu'il ira loin, ce jeune homme-là. En attendant, lui ne bouge de sa fenêtre. Lui, c'est donc moi, modestie à part. J'y passe mes journées, si j'ose dire. Non, jamais mes professeurs, jamais Grotius, Pufendorf, ne m'ont donné le centième de l'instruction que je hume de là, rien qu'à regarder dans la rue. Toutefois, ici comme ailleurs, on va par degrés. C'est d'abord simple flânerie récréative. On regarde en l'air, on fixe un fétu, on souffle une plume, on considère une toile d'araignée ou l'on crache sur un certain pavé. Ces choses-là consument des heures entières en raison de leur importance. Non, je ne plaisante pas. Imaginez un homme qui n'est jamais passé par là. Qu'est-il, que peut-il être ? Une sotte créature, toute matérielle et positive, sans pensée, sans poésie, qui descend la pente de la vie sans jamais s'arrêter, dévier du chemin, regarder alentour ou se lancer au-delà. C'est un automate qui chemine de la vie à la mort, comme une machine à vapeur de Liverpool à Manchester. Oui, la flânerie est chose nécessaire au moins une fois dans la vie, mais surtout à 18 ans, au sortir des écoles. C'est là que se ravive l'âme desséchée sur les bouquins. Elle fait halte pour se reconnaître. Elle finit sa vie d'emprunt pour commencer la sienne propre. Ainsi, un été entier passé dans cet état ne me paraît pas de trop dans une éducation soignée. Il est probable même qu'un seul été ne suffirait point à faire un grand homme. Socrate flâna des années, Rousseau jusqu'à 40 ans, La Fontaine toute sa vie. Et cependant, je n'ai vu ce précepte consigné dans aucun ouvrage d'éducation. Ces pratiques dont je viens de parler sont donc la base de toute instruction réelle et solide. En effet, c'est pendant que les sens s'y trouvent un innocent aliment que l'esprit contracte le calme d'abord, puis la disposition à observer. Que faire en flânant, à moins que l'on observe? Puis enfin, par suite et à son insu, l'habitude de classer, de coordonner, de généraliser. Et le voilà tout seul arrivé à cette voie philosophique recommandée par Bacon et mise en pratique par Newton, lequel un jour, flânant dans son jardin et voyant choir une pomme, trouva l'attraction. L'étudiant à sa fenêtre ne trouve pas l'attraction. Mais par un procédé tout semblable, à force de regarder dans la rue, il lui arrive au cerveau une foule d'idées qui, vieilles ou neuves, en elles-mêmes, sont du moins nouvelles pour lui et prouvent clairement qu'il a mis son temps à profit. Et ces idées, venant à heurter dans son cerveau ses anciennes idées d'emprunt, du choc naissent d'autres lumières encore. Car, par nature, ne pouvant flotter entre toutes et surtout entre les contraires, le voilà qui, tout en fixant un fétu, compare, choisit et se fait savant à vue d'œil. Et quelle charmante manière de travailler que cette manière de perdre son temps. Mais, quoiqu'à la rigueur un fétu suffise pour flâner avec avantage, je dois dire que je ne m'en tiens pas là, car ma fenêtre embrasse un admirable ensemble d'objets. En face, c'est l'hôpital, immense bâtiment où rien n'entre, d'où rien ne sort, qui ne me paie tribut. Je suis les intentions, je devine les causes ou je perce les conséquences. Et je me trompe peu, car interrogeant la physionomie du portier à chaque cas nouveau, j'y lis mille choses curieuses sur les gens. Rien ne marque mieux les nuances sociales que la figure d'un portier. C'est un miroir admirable où se viennent point peindre dans tous leurs degrés le respect rampant, l'obséquiosité protectrice ou le dédain brutal, selon qu'il réfléchit le riche directeur, l'employé subalterne ou le pauvre enfant trouvé. Miroir changeant, mais fidèle. Vis-à-vis de ma fenêtre un peu plus haut est celle d'une des salles de l'hôpital. De la place où je travaille, je vois l'obscur plafond, quelquefois le sinistre infirmier, le nez contre les vitres regardant dans la rue. Et que si je monte sur ma table, alors mes yeux plongent dans ce triste séjour où la douleur, l'agonie et la mort ont étendu leurs victimes sur de longues files de lits. Spectacle funèbre où souvent néanmoins m'attire un intérêt sombre lorsque, à la vue d'un infortuné qui se meurt, mon imagination se promène autour de son chevet et tantôt rebroussant dans cette vie qui s'éteint, tantôt s'avançant vers cet avenir qui s'ouvre, se repaît de ce charme mélancolique toujours attaché au mystère où s'enveloppe la destinée de l'homme. À gauche, au bas de la rue, c'est l'église, solitaire la semaine, remplie le dimanche et retentissant de pieux cantiques. Là aussi, je vois qui entre, je vois qui sort, je conjecture, mais moins sûrement. En effet, point de portier. Il y en aurait un que je ne serais guère plus avancé, car c'est le propre du portier de s'arrêter à l'habit. Au-delà, il est aveugle, muet, sourd, et sa physionomie ne réfléchit plus rien. Or, c'est l'âme de ce qui hante l'église qui m'intéresserait à connaître. Malheureusement, l'âme est sous l'habit, sous le gilet, sous la chemise, sous la peau, et encore bien souvent n'y est pas, s'allant promener pendant le prêche. Je vais donc tâtonnant, hésitant, supposant, et ne m'en trouve pas plus mal, car c'est précisément le vague, l'incertain, le douteux qui fait l'aliment, comme le charme de la flânerie. La droite, c'est la fontaine où tiennent cours autour de l'eau bleue servante, mitron, valet, commère. On s'y dit des douceurs au murmure de la salle qui remplit. On y cause l'insolence des maîtres, les ennuis du service, le secret des ménages. C'est ma gazette, d'autant plus piquante ainsi que, n'entendant pas tout, il faut souvent deviner. Là-haut, entre les toits, je vois le ciel, tantôt bleu, profond, tantôt gris, borné par des nuages flottants. Quelquefois, traversé par un long vol d'oiseaux, émigrant aux rives lointaines, par-dessus nos villes et nos campagnes. C'est par ce ciel que je suis en relation avec le monde extérieur, avec l'espace et l'infini, grand trou où je m'enfonce du regard et de la pensée, le menton appuyé sur le poignet. Quand je suis fatigué de m'élever, je redescends sur les toits. Ah là, ce sont les chats qui, maigres et ardents, miaulent dans la saison d'amour où gras et indolents se lèchent au soleil d'août. Sous le toit, les hirondelles et leurs oisillons, revenus avec le printemps, fuyant avec l'automne, toujours volant, cherchant, rapportant vers la couvée criarde. Je les connais toutes, elles me connaissent aussi. Non plus effrayées de voir ma tête qu'à la fenêtre au-dessous un vase de capucine. Enfin, dans la rue, spectacle toujours divers, toujours nouveau. Gentille laitière, grave magistrat, écolier polisson, chien qui grogne ou joue follement, bœufs qui mâchent, remâchent le foin, pendant que leur maître est à boire. Et si vient la pluie, croyez-vous que je perde mon temps? Mais jamais je n'ai tant à faire. Voilà mille petites rivières qui se rendent au gros ruisseau, lequel s'emplit, se gonfle, rougit, entraînant dans sa course des débris que j'accompagne chacun dans ses bonds avec un merveilleux intérêt. Ou bien quelques vieux pots cassés, ralliant ses fuyards derrière son large ventre, entreprend d'arrêter la fureur du torrent. Cailloux, ossements, copeaux viennent grossir son centre, étendre ses ailes. Une mer se forme et la lutte commence. Alors, la situation devenant dramatique au plus haut degré, je prends parti et presque toujours pour le pot cassé. Je regarde au loin s'il lui vient des renforts, je tremble pour son aile droite qui plie, je frémis pour l'aile gauche déjà minée par un filet, tandis que le brave vétéran, entouré de son élite, tient toujours, quoique submergé jusqu'au front. Mais qui peut lutter contre le ciel? La pluie redouble ses fureurs et la débâcle, oh, une débâcle! Les moments qui précèdent une débâcle, c'est ce que je connais le plus exquis, en fait de plaisirs innocents. Seulement, si pour franchir le ruisseau, les dames montrent leurs fines jambes, je laisse la débâcle et je suis de l'œil et les bas blancs jusqu'au tournant de la rue. Et ce n'est là qu'une petite partie des merveilles qu'on peut voir de ma fenêtre. Aussi, je trouve les journées bien courtes et que, faute de temps, je perds bien des choses. Au-dessus de ma chambre est celle de mon oncle Tom. Assis sur un fauteuil et à vis, l'échine courbe et en avant, tandis que le jour glisse sur ses cheveux d'argent, il lit, annote, compile, rédige et en serre dans son cerveau la quintessence de quelques mille volumes qui garnissent sa chambre tout alentour. Au retour de son neveu, mon oncle Tom sait tout ce qu'on apprend dans les livres et rien de ce qu'on apprend dans la rue. Aussi croit-il à la science plus qu'aux choses mêmes. Vous le trouveriez sceptique sur sa propre existence, très dogmatique sur tel système nuageux de philosophie, du reste beau et naïf comme un enfant pour n'avoir jamais vécu avec les hommes. Trois bruits distincts m'annoncent presque tout ce que fait mon oncle Tom. Quand il se lève, la vis crie. Quand il va prendre un livre, l'échelle roule. Et quand il s'est distrait d'une prise de tabac, la tabatière frappe la table. Ces trois bruits se suivent d'ordinaire et j'y suis tellement habitué qu'il me détourne peu de mes travaux. Mais un jour, la vis crie, l'échelle ne roule pas, j'attends la tabatière. Rien. Je fus réveillé de ma flânerie, comme l'est un meunier de son somme quand la roue de son moulin à bien tient à se taire. J'écoute. Mon oncle Tom cause. Mon oncle Tom rit. Une autre voix. « Ah, c'est bien cela !» me dis-je, très ému. « C'est qu'il faut savoir que depuis que je travaillais à la fenêtre, je n'étais point resté dans les généralités. Je m'étais, depuis quelques jours, occupé tout particulièrement d'un objet qui avait atténué l'intérêt que je portais aux autres. Et voici les symptômes qui ont signalé ce changement dans la direction de mes travaux. Dès le matin, j'attends. Dès 2 heures, le cœur me bat. Quand elle a passé, ma journée est finie. Avant, je n'avais jamais songé que je fusse seul. D'ailleurs, n'étions-nous pas, moi et mon oncle, et le ruisseau, et les hirondelles, et tout le monde? Et aujourd'hui, je me trouve seul, tout seul, excepté vers 3 heures, que tout reprend vie autour et au-dedans de moi. Je vous ai dit comment, auparavant, coulaient mes douces heures. Et aujourd'hui, je ne sais plus ni m'occuper, ni être oisif, ni flâner, ce qui est fort différent. C'est au point que, l'autre jour encore, une grosse plume tournoya lentement à 2 doigts de mon nez, sans que l'idée seulement me vînt de souffler dessus. Et je pourrais citer 100 traits pareils. Au lieu de cela, je songe tout éveillé. Je rêve qu'elle me connaît, qu'elle me sourit, que je lui agrée. Ou bien, cherchant les voies et moyens de lui être quelque chose, je la rencontre, je voyage avec elle, je la protège, je la défends, je la sauve entre mes bras. Et je m'attriste profondément de n'être point ensemble, tous les deux en un bois sombre, attaqués par d'affreux brigands que je mets en fuite, quoique blessés en la défendant. Mais il est temps de dire ce qu'était cet objet. Je ne sais comment m'y prendre, car les mots sont bien inhabiles à peindre sous quel air nous apparut la première fille qui fit battre notre cœur. Impressions franches et vives, qui aurait besoin d'un langage tout jeune. Je dirais donc seulement que tous les jours, sortant vers 3 heures d'une maison voisine, elle descendait la rue et passait sous ma fenêtre. Sa robe était bleue et si simple que vous ne l'eussiez pas distinguée de tant d'autres robes bleues qui passaient. Ni moi non plus, n'était que je lui trouvais une grâce toute particulière à flotter autour de cette jeune taille. Et cette jeune taille me semblait tenir son charme de l'air modeste de l'aimable fille si douce à voir. De façon que, revenant ensuite à la robe, il me devenait impossible d'en imaginer une plus à mon gré, sans lieu à la ronde et chez les premières faiseuses. Aussi, tant que cette robe était sur mon horizon, tout me semblait sourire et s'embellir alentour. Et quand elle avait disparu, il me fallait encore une robe bleue pour tous mes rêves de félicité. Or, ce jour-là, je la vis venir à son ordinaire et approcher jusque sous ma fenêtre, d'où mes yeux se disposaient à la suivre jusqu'au tournant de la rue, et mes pensées au-delà encore, lorsque, faisant un détour, elle entra dans l'allée juste au-dessous de moi. J'en fus si troublé que je retirai ma tête comme si elle fût entrée de plain-pied dans ma chambre. Puis j'allais réfléchir qu'elle traversait dans l'autre rue, lorsque se passèrent dans la bibliothèque de mon oncle Tom les choses extraordinaires qui causèrent l'émotion dont j'ai parlé. Quoi, elle parle à mon oncle? Et je faisais d'incroyables efforts d'ouïe pour saisir quelques mots, lorsqu'un événement imprévu vint bouleverser l'univers qui commençait à se former autour de moi. Cet événement si grave était au fond de mince importance. L'échelle venait de rouler et j'entendais mon oncle Tom monter les degrés en causant. Je crus même distinguer le mot hébraïque sortant de sa bouche. De tout cela, il résultait clairement que mon oncle Tom avait affaire en ce moment à quelque docteur hébraïsant qui remaniait avec lui quelques vétilles d'érudition. Car, pour elle, s'imaginer que sa jeune tête s'enquit de niaiseries scientifiques ou que sa jolie main voulut feuilleter de poudreux in-folio, n'y avait pas moyen. Je me remis machinalement à la fenêtre, fort désappointé, et regardant sans voir comme lorsqu'on a une idée qui vous rend absent de vous-même. Cependant, en face, au gros soleil, deux ânes philosophaient attachés au même gond. Après un grand moment, l'un fit une réflexion, ce que je reconnus à un imperceptible frisson de son oreille gauche. Puis, allongeant la tête, il montrait amoureusement de l'autre son vieux râtelier. Sur quoi, celui-ci ayant compris, en fit autant, et ils se mirent tous deux à l'œuvre, se grattant le cou avec une telle réciprocité de bons offices, avec une nonchalance si voluptueuse, une flânerie si suave, que je ne pus m'empêcher de sympathiser, moi troisième. C'était la première fois depuis ma préoccupation. C'est qu'il est, dans la naïveté de certains spectacles, des attractions irrésistibles qui enlèvent l'âme à elle-même et la font infidèle à ses plus doux pensées. Aussi allais-je m'enivrer de celui-là lorsqu'une robe bleue sortit de l'allée. C'était elle. Hé ! M'écriai-je involontairement. La jeune fille, entendant quelque chose, leva la tête assez pour que l'aile de son chapeau laissât passer son beau regard, qui vint m'inonder de honte, de trouble et d'un plaisir rapide comme l'éclair. Elle rougit et continua d'aller. C'est le charme de cet âge de rougir au souffle du vent, au bruit d'une paille. Mais rougir à mon occasion me sembla néanmoins une faveur inexprimable, une circonstance qui changeait beaucoup ma situation. Car c'était la première fois que, d'elle à moi, il se passait quelque chose. Ce qui diminua bientôt ma joie suivit un prompt retour sur moi-même. Elle m'avait vu disant « Hé !» la bouche béante, l'œil ahuri, de l'air d'un idiot qui voit choir son chapeau dans la rivière. L'idée de cette première impression que j'aurais dû lui produire m'était singulièrement amère. Mais que pensez-vous qu'elle eut sous son bras? Un in-octavo couvert de parchemin, fermé de clous d'argent. Misérable bouquin que 100 fois j'avais vu traîner dans la chambre de mon oncle, et qui, alors, doucement pressé sous son bras, me semblait le livre des livres. Je compris pour la première fois qu'un bouquin peut être bon à quelque chose. Sage, mon oncle Tom, d'en avoir ramassé toute sa vie, et imbécile, moi, de n'avoir pas eu en ma possession ce fortuné livre dont le titre même m'était inconnu. Elle traversa la rue, se dirigeant vers l'entrée de l'hôpital, où elle dit quelques mots au portier, qui me parut la connaître, et ne lui accordait que juste ce qu'il fallait de protection pour qu'elle osât passer. Bien qu'indigné contre le brutal, cela me fit plaisir, en me prouvant que la fille de mes pensées n'était pas d'une condition assez riche ou élevée, pour rendre ridicules à mes propres yeux les vœux qui commençaient à germer dans mon cœur. J'éprouvais un grand plaisir à la savoir si près de moi, car j'avais craint de la perdre jusqu'au lendemain. Je brûlais d'apprendre ce qu'il avait amené chez mon oncle et ce qui pouvait l'attirer dans ce lieu. Mais, pour le moment, enchaîné par le désir de la voir sortir, je me résignais à attendre jusqu'à ce que, la nuit étant venue, je perdis l'espoir de la revoir ce jour-là, et je montai en toute hâte chez mon oncle Tom. Il avait déjà allumé sa lampe et je le trouvais considérant avec la plus grande attention au travers d'une fiole remplie d'un liquide bleuâtre. « Bonjour, Jules, » me dit-il sans se déranger. « Assieds-toi là, je vais être à toi. » Je m'assis, impatient de questionner mon oncle et considérant la bibliothèque qui m'apparaissait toute changée. Je regardais avec respect ces vénérables livres, frères de celui que j'avais vu sous son bras, et les choses que je voyais, l'air que je respirais, me semblaient autres, comme si la jeune fille venue en ce lieu y eût laissé quelque signe de sa présence. « J'ai fait !» dit mon oncle. « À propos, Jules, tu ne sais pas ?»« Non, mon oncle. » « Mais remercie une jeune fille qui est venue ici !» En disant ces mots, il prit le chemin de sa table, pendant que j'entendais battre mon cœur d'attente. Puis, se retournant, « Devine !» me dit-il, comme voulant jouir de ma surprise. J'étais hors d'état de rien deviner. « Elle vous a parlé de moi ?» dis-je avec une émotion croissante. « Mieux que cela !» reprit mon oncle d'un air fin. « Oh, dites, mon oncle, je vous en supplie. Tiens, voilà mon burlamaqui retrouvé !» Je tombais du ciel sur la terre, faisant des imprécations intérieures contre burlamaqui, que par respect je substituais à mon oncle en cette occasion. « Mais en lui cherchant un livre, » continua mon oncle Tom, « je t'ai trouvé celui-ci que je croyais perdu. Oh, l'aimable fille, » reprit-il, « équivaut bien, ma foi, 12 de tes professeurs. » J'étais de son avis pour le moins, et cette exclamation de mon oncle Tom me raccommoda un peu avec lui. « Elle lit l'hébreu comme un ange. » Oh, là, je n'y étais plus du tout. « Elle lit les mots, mais mon oncle, car cette idée m'était désagréable. « Oui, j'ai eu un plaisir extrême à lui faire lire le psaume 48 dans l'édition de Buxtorf. Je lui ai expliqué, en comparant les variantes avec l'édition de Crusius, combien le texte de Buxtorf est préférable. « Vous lui avez dit cela à elle ?»« Mais c'est clair, puisque je lui parlais. » Elle était là, devant vous, et vous avez pu lui dire cela ? Mais oui, d'ailleurs ce que j'ai dit là ne peut guère se dire qu'à une juive. D'autres sont-ils faits comme moi ? Juive, belle et juive. Oh, je l'en trouvais tout de suite 10 fois plus belle, elle en avait 10 fois davantage. Vous, cela est peu chrétien. J'assure pourtant qu'il en fut ainsi, et que le charme que je lui trouvais déjà s'en trouvait rafraîchi, vivifié, comme si dès lors les mêmes choses que j'aimais en elle se fussent trouvées différentes et nouvelles. Je sais encore qu'en ce point je raisonnais fort mal, et que le plus mince logicien eût pu me convaincre d'absurdité, à plus forte raison mon oncle Tom. Aussi je ne lui en parlais pas, car je tenais plus encore à mon erreur qu'à la logique. Mais l'impression fut ce que j'ai dit. D'ailleurs, aime-t-on sa sœur d'amour ? Non, sa compatriote. Mieux, l'étrangère, plus vite encore. Mais une belle juive, et puis délaissée peut-être, mal vue des bonnes gens. C'était à mes yeux davantage, comme si cela l'eût rapproché de moi. « Veut-elle donc hébraïser ? » dis-je à mon oncle Tom. « Non, non, bien que je l'y ai engagé de tout mon pouvoir. Il s'agit d'un pauvre vieillard qui s'en va mourant. Elle venait m'emprunter une Bible hébraïque pour lui faire quelques lectures pieuses. » « Ah, ne reviendra donc plus. J'ai demain vers 10 heures pour me rapporter le livre. » Et mon oncle se remit à examiner sa fiole pendant que je restais à songer. « Demain, ici, dans cette même chambre, me disais-je, si près de moi sans que je lui sois rien, pas même autant que mon oncle Tom et sa fiole. » Je redescendis tristement chez moi. Je fus très surpris de trouver ma chambre éclairée par une légère lueur. Ayant reconnu que c'était le reflet d'une lumière qui brillait vis-à-vis dans la salle de l'hôpital, ordinairement sombre à cette heure, je montai sur une chaise d'où je vis d'abord une ombre qui se projetait contre la muraille du fond. Ma curiosité étant vivement excitée, je me guindai entre la chaise et la fenêtre, de telle façon que je pus plonger assez bas pour reconnaître, suspendu à cette même muraille, un chapeau de femme. « Oh, mais c'est elle ! » m'écriai-je. Mettre la chaise sur la table, Grotius et Pufendorf sur la chaise et moi sur le tout, fut l'affaire d'un clin d'œil. Et je retenais mon souffle pour mieux jouir du spectacle qui s'offrait à moi. Au chevet d'un vieillard pâle et souffrant, je la voyais pieuse, recueillie, embellie de tout l'éclat que prêtait à sa jeunesse et à sa fraîcheur cet entourage de maladie et de vieillesse. Elle baissait ses belles paupières sur le livre de mon oncle, où elle lisait les paroles de consolation. Quelquefois, s'arrêtant pour laisser reposer le malade, elle lui soutenait la tête ou lui prenait affectueusement la main, le considéra avec une compassion qui me paraissait angélique. « Heureux mourant, disais-je, que ses paroles doivent lui être douces et ses soins pleins de charme. « Oh, que je changerai ma jeunesse et ma force contre ton âge et tes maux !» Je ne sais si je fis ces réflexions tout haut ou si ce fut un pur effet du hasard. Mais en ce moment, la jeune fille, s'interrompant, leva la tête et regarda fixement de mon côté. J'en fus troublé comme si elle eût pu me voir dans la nuit où j'étais. Ayant fait un mouvement en arrière, je tombai, emmenant avec moi la chaise, la table, Grotius et Pufendorf. Le vacarme fut grand et je restai quelque temps étourdi par la chute. Au moment où j'allais me relever, mon oncle Tom parut, un bougeoir à la main. « Qu'est-ce, Jules ? » me demanda-t-il effrayé. « Oh non, ce n'est rien, mon oncle, c'est ici au plafond. » Mon oncle jeta les yeux sur le plafond. « Je voulais suspendre. » Mon oncle jeta les yeux tout autour pour voir quelque chose à suspendre. « Et puis pendant que... Alors je suis tombé, et ensuite... Je suis tombé. Et... »« Remets-toi, remets-toi, mon ami, » me dit mon oncle Tom avec bonté. « La chute a probablement affecté les fibres cérébrales, ce qui est cause de la cohérence de ton discours. » Il me fit asseoir, et pendant ce temps s'empressa de relever les 2 in-folios dont il avait considéré les ais fracassés avec plus d'émotion sans doute qu'il en avait ressenti en parlant à la belle juive. Il les replaça avec soin sur la table, puis revenant à moi, « Tu voulais suspendre quoi ?» me dit-il en me prenant la main de manière à glisser furtivement son index sur mon pouls. Cette question m'était très embarrassante, car en vérité, il n'y avait pas apparence de choses à suspendre dans toute ma chambre. Aussi, connaissant d'ailleurs l'indulgente douceur de mon bon oncle Tom, j'allais lui raconter tout lorsqu'au moment de le faire, je ne le fis point. C'est que, pour ce que j'avais dans le cœur, l'indulgence n'est déjà plus assez. J'aurais voulu de la sympathie, et mon oncle n'en pouvait éprouver que pour des idées abstraites, scientifiques. C'est ce qui fit que je répugnais à lui ouvrir mon cœur, crainte de faner un sentiment que j'étais jaloux de nourrir à ma guise. Mais c'était pour suspendre, mon Dieu, déjà. Et oh, mon oncle, c'est fini. Quoi ? En ce moment, la lumière venait de s'éteindre dans la chambre du mourant, et avec elle, tout mon espoir. Pour mon oncle, à cette exclamation, il commença à juger le cas très grave et m'engagea à me mettre au lit, où il m'examina avec attention pendant que je songeais à la jeune fille dont la vue venait de m'être ravie. Mon oncle Tom était loin de se douter de la cause de mon mal. Cependant, après m'avoir anatomiquement considéré, palpé, il se convainquit, avec une certitude faisant honneur à sa science, que le squelette était en parfait état. Débarrassé de toute inquiétude à ce sujet, il s'occupa d'examiner le jeu de la respiration, celui de la circulation et de toutes les fonctions vitales. Passant ensuite aux symptômes tout à fait extérieurs, il parut enfin avoir satisfait sa curiosité et de l'air d'un homme qui emporte quelque chose dans sa tête pour y songer, il me quitta. Il était d'environ minuit. Je restais seul avec mes idées où je me plongeais tout entier lorsque le roulement de l'échelle me fit tressaillir et peu après je m'endormis. J'étais fort agité. Mille images sans rapport avec l'objet de mes pensées se croisaient, se succédaient devant mes yeux. Ce n'était ni le sommeil, ni la veille, encore moins le repos. Enfin, à ce trouble succéda l'épuisement, et bientôt mes songes, quelque peu sans suspendus, revinrent et prirent une autre teinte. Je rêvais qu'en un bois silencieux, je marchais, souffrant, mais pourtant calme, et l'âme pénétrée de je ne sais quel sentiment, tout plein d'un charme qui m'était inconnu. Personne d'abord et rien de tout ce qui aurait pu me rappeler la vie ordinaire. C'était bien moi, mais doué de beauté, de grâce, de tous les avantages que je désire éveiller. Fatigué, je m'étais assis dans une clairière solitaire. Une figure s'était approchée que je ne connaissais pas, mais dont les traits étaient animés par l'expression d'une mélancolique bonté. Insensiblement, elle avait pris un air qui m'était plus connu. Enfin, elle s'était trouvée ma chère juive. Elle aussi, douée de tout ce que je lui désire, paraissait se plaire à me considérer, et quoiqu'elle ne parlât pas, son regard avait un langage qui me touchait au plus doux endroit de mon cœur. Je voyais sa belle tête s'incliner sur mon front. Je sentais sa douce haleine et à la fin, sa main avait trouvé la mienne. Alors, une émotion croissante m'agitant, mon rêve peu à peu perdit sa quiétude. Les images devinrent flottantes et incertaines, et de figure en figure, je ne vis plus que celle de mon oncle Tom, qui avait pris ma main pour me tâter le pouls, et dont la tête inclinée sur la mienne me considérait au travers de ses besicles. Oh, que la figure de mon oncle Tom me parut affreuse en ce moment-là. Je l'aimais beaucoup, mon oncle Tom, mais passer du plus doux objet à la figure de son oncle, des plus charmants songes du cœur aux froides réalités, il en faut moins pour faire prendre en dégoût et la vie et son oncle. « Tranquillise-toi, Jules, me dit-il, je suis sur la trace de ton mal. » Et continuant à m'observer, il feuilletait un vieux in-quarto, comme pour ajuster, d'après l'auteur, le remède aux symptômes. « Mais je n'ai point de mal, vous vous trompez, mon oncle. Le seul mal est de m'avoir réveillé. Oh, j'étais si heureux !» Mais tu étais bien, tu étais tranquille, heureux. Non, mais j'étais au ciel. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Ici, une joie visible, mélangée d'une teinte d'orgueil et de docte satisfaction, se peignit sur le visage de mon oncle Tom. Je crus l'entendre dire: Bon, le remède au père. Mais que m'avez-vous donc fait? Lui dis-je. Oh, tu le sauras. Je tiens ici ton cas, page 64 d'Hippocrate, édition de la Haye. Pour le moment, il nous faut que de la tranquillité. Mais mon oncle, quoi? Je ne savais comment m'y prendre pour engager mon oncle à me parler de la jeune juive, sans lui révéler ce que je sentais pour elle. J'aurais voulu le mettre sur la voie. Demain, ne m'avez-vous pas dit? Et je me tus. Demain, elle vient chez vous. Qui? Oh, je craignis d'en avoir trop dit. Oh, c'est la fièvre. La fièvre. Aussi mes questions et mes réponses lui semblèrent-elles incohérentes au dernier point, et je l'entendis murmurer le mot de délire, sur quoi il sortit. Bientôt l'échelle roula, je tressaillis. Mais c'est tout ce que je pus ressaisir de la situation d'où je venais de sortir. Je fis d'incroyables efforts pour retrouver le sommeil et mon songe. Rien. Je ne pouvais pas même ressaisir cette réalité dont auparavant je me contentais. Le songe l'avait effacé sans que je puisse le faire renaître. C'était le vide. Ce ne fut qu'après m'être reporté en idée au lendemain que je pus retrouver l'image de ma juive antérieure à mon sommeil. Je me représentais de mille façons sa venue chez mon oncle, et à force d'imaginer des moyens de la voir, de lui parler, de me faire connaître à elle, j'en vins à former le projet le plus extravagant. Écarter mon oncle, la recevoir moi-même, lui parler. Oui, mais que lui dirais-je? Savoir quoi lui dire était la première condition pour que mon plan fût possible. J'étais fort embarrassé, car c'était la première fois que j'avais à parler d'amour. Je n'avais pour guide que quelques romans que j'avais lus, où l'on me semblait parler si bien que je désespérais de pouvoir atteindre à cette perfection. Oh, si seulement je pouvais lui peindre l'état de mon cœur, disais-je. Il me semble que toute fille accepterait ce que je ressens pour elle. Et je sautai à bas du lit pour essayer ce que je pourrais lui dire. Après avoir allumé ma bougie, je plaçai en face de moi une chaise à qui je pusse m'adresser et m'étant recueilli un moment, je commençai en ces termes. Mademoiselle, mademoiselle, ce mot me déplut. Un autre, point, non. Le sien, je l'ignorais. Je pensais qu'en cherchant, je cherchais bien, oh, rien que mademoiselle. Oh, me voilà arrêté au début. Mais est-ce bien une demoiselle? Est-ce pour moi une demoiselle, comme la première venue? Mademoiselle, oh, impossible. Il ne me reste plus qu'à tirer mon chapeau et dire « J'ai bien l'honneur d'être, etc. » Je m'assis fort désappointé. Je recommençai plus de 10 fois sans pouvoir trouver autre chose. Je me décidai enfin à éluder la difficulté en écartant ce mot et je repris d'un ton passionné « Vous voyez devant vous celui qui ne peut vivre, qui ne veut brûler que pour vous. » Et dès ce jour, mon cœur vous jure un éternel. Ah, oh, mon Dieu, c'est un quatrain! Car je sentais arriver au galop une rime fatale. Je me rassis désespéré. C'est donc si difficile d'exprimer ce que l'on sent, pensais-je avec amertume. Que deviendrai-je? Elle rira, ou plutôt elle prendra en pitié ma bêtise, et je serai perdu. Cette pensée me rongeait et je renonçais déjà à mon projet. Cependant, mille sentiments gonflaient mon cœur, comme s'ils eussent cherché une issue. En sorte que, malgré moi, je roulais dans ma tête une foule de phrases, de protestations, d'apostrophes passionnées, qui formaient un cauchemar pénible, sous lequel je restais affaissé. Je me levais pour me soulager, et je me promenais dans ma chambre, laissant échapper des mots, des phrases entrecoupées. Vous ignorez qui je suis, et déjà je ne vis plus que de vous, de votre image. Pourquoi suis-je ici? J'ai voulu vous voir. J'ai voulu, au risque de vous déplaire, vous faire savoir qu'il est un jeune homme dont vous êtes l'unique pensée. Pourquoi suis-je ici? Mais c'est pour mettre à vos pieds mon amour, mon sort, ma vie. Juive, et qu'importe, juive, je vous adorerai, juive, je vous suivrai partout. Oh, ma chère juive! Trouverez-vous d'ailleurs, ailleurs quelqu'un qui vous aime comme moi? Trouverez-vous ailleurs la tendresse, le dénouement, la félicité que mon cœur vous tient en réserve? Oh, si vous pouviez partager la moitié de ce que j'éprouve, vous béniriez le jour où vous me vîtes à vos pieds, et aujourd'hui même vous me laisseriez l'espoir que je ne vous ai pas parlé en vain. Je m'arrêtais, soulagé. J'avais versé dans ces mots une partie des sentiments qui inondaient mon âme, et au feu dont j'accompagnais mes discours, je croyais voir la jeune fille rougir, s'émouvoir, et mes paroles arriver jusqu'à son cœur. Alors, portant la main sur le mien, « Ah non, ajoutai-je, par pitié pour un malheureux, ne me repoussez pas, vous me repousseriez dans l'abîme, la vie pour moi c'est où vous êtes. » Et, oh, le diable m'emporte, oh, mon oncle, tout était perdu sans ressources, et je fus sur le point d'en verser des larmes amères. La passion m'avait ennobli à mes propres yeux. Pour quelques instants, cette défiance de moi-même, ce dégoût, ces craintes qui toujours venaient empoisonner mes espérances, avaient disparu. Je me trouvais comme posé d'égal à égal devant ma divinité, et en achevant ces mots, je portais ma main sur mon cœur que je sentais brûlant jusqu'à la peau lorsque... Non, oh, j'eusse mis la main avec moi de dégoût sur une froide couleuvre, sur un humide crapaud. J'arrachais le monstre et le jetais loin de moi. En cet instant entra mon oncle Tom, calme comme le temps, une fiole à la main, son livre sous le bras. « Maudit soit, lui dis-je avec emportement, votre Hippocrate, vos bouquins et tout ce qui... Mais qu'avez-vous fait? Dites mon nom, qu'avez-vous fait? Deux fois troublé les plus doux instants de ma vie, mais qu'est-ce encore? Venez-vous m'empoisonner? » Devant cette apostrophe, mon oncle Tom, bien loin de se fâcher, avait repris la chaîne de son raisonnement, là où il l'avait laissé, et s'étant confirmé dans l'idée que le délire continuait, il avait pris l'attitude d'un observateur finement attentif. Sans tenir aucun compte du sens de mes paroles, il étudiait avec sagacité, aux gestes, à l'altération de la voix, au feu de mes regards, la nature et les progrès du mal, notant dans son esprit jusqu'aux plus petits symptômes pour les combattre ensuite. « Il a ôté l'emplâtre, » dit-il tout bas. « Jules, quoi ? Couche-toi, mon ami. Couche-toi, Jules, fais-moi ce plaisir. » Et tout bien considéré, je me couchais, songeant qu'il m'était impossible de prouver à mon oncle que je n'étais pas fou, à moins de lui avouer mon secret, ce qui, dans ce moment, aurait ruiné tout mon projet, sans lui prouver que je fusse sain d'esprit. « Et voici une boisson que je t'apporte. Bois, mon ami, bois !» Je pris la fiole et, faisant semblant de boire, je laissai couler le liquide entre le lit et la muraille. Mon oncle m'entoura la tête d'un mouchoir, à lui, me couvrit jusqu'aux yeux, ferma les rideaux, les volets et, tirant sa montre, Il est 3 heures, dit-il. Bon, il doit dormir jusqu'à 10 heures. Hein? 10h-20, ce sera le moment de descendre. Et il me quitta. Épuisé de fatigue, je dormis quelques instants. Mais bientôt, l'agitation me chassa de mon lit et je m'occupai des préparatifs de mon projet. Je fis un mannequin aussi semblable à moi qu'il me fut possible. Je lui entourai la tête du mouchoir de mon oncle. Je le couvris bien. Puis je refermai les rideaux, bien sûr d'ailleurs que mon oncle, sur l'autorité d'Hippocrate, ne les ouvrirait pas avant 10 heures. Après quoi, j'allai m'établir à la fenêtre. Déjà passaient quelques laitières. Le portier ouvrait, les hirondelles étaient à l'ouvrage. Le retour de la lumière, la fraîcheur du matin, la vue des objets accoutumés, ramenant en moi plus de calme, me faisait voir mon entreprise sous un aspect moins favorable, et je chancelais presque. Mais lorsque les impressions de mon songe me revenaient en mémoire, il me semblait que renoncer à ce projet, c'était renoncer sans retour à tout ce qu'il y a de plus doux au monde, et je retrouvais tout mon courage. Cependant, le temps s'écoulait, je venais de tirer ma montre, quand la vis cria. C'était 10h-15. Je sortis promptement et je laissai mon oncle s'installer auprès du mannequin pendant que j'allais sans bruit m'établir dans la silencieuse bibliothèque. J'entrai très doucement et je courus vers la fenêtre. Debout, derrière les vitres, les yeux fixés sur l'extrémité de la rue, à l'endroit où elle devait paraître, je commençais à trembler d'attente et de malaise. Pour comble de malheur, je m'aperçus que ma harangue s'échappait, et voulant en retenir des lambeaux, je tombais dans des transpositions si étranges que j'en étais suffoqué d'émotion. Oh, je me voyais perdu, et ma peur devint si forte que je me mis à siffler comme pour m'imposer à moi-même. En ce moment, l'horloge sonna 10 heures. J'en conçus l'espoir qu'une fois 10 heures sonnées, elle ne viendrait pas ce jour-là, et je me mis à compter les coups dont chacun se faisait attendre un siècle. Enfin, le 10e sonna, et j'éprouvai un grand soulagement. Je commençais à me remettre lorsqu'une robe bleue parut. Oh, c'était elle! Mon cœur bondit, ma harangue s'envola. Je n'eus plus le sentiment que pour désirer de toute ma force qu'elle fût sortie dans quelque autre but, et j'attendais, dans une anxiété inexprimable, de voir si, arrivée devant la maison, elle passerait outre ou se détournerait pour entrer. Observant jusqu'aux plus légères déviations de sa marche, j'en tirais des inductions qui me comblaient tour à tour d'aise et de terreur, et la seule chose qui me rassura un peu, c'est qu'elle marchait de l'autre côté du ruisseau. Elle le franchit, et comme les vitres m'empêchaient d'avancer la tête, je la perdis de vue. Aussitôt, je la sentis dans la bibliothèque, et toute présence d'esprit m'abandonnant, je courus vers la porte pour m'enfuir. Mais en traversant le vestibule, le bruit de ses pas répercutés dans la silencieuse cour me fit réfléchir que j'allais la rencontrer. Je m'arrêtai. Elle était là. Au coup de cloche, mes yeux se troublèrent. Je chancelai et je m'assis, bien déterminé à ne pas ouvrir. En ce moment, la chatte de mon oncle, sautant du haut d'une lucarne voisine, vint tomber sur la tablette de la fenêtre. Au bruit, je fus secoué par un énorme tressaut, comme si la porte se fût ouverte tout à coup. L'animal m'ayant reconnu, je vis avec une affreuse angoisse qu'il allait miauler. Et il miaula. Alors il me sembla si bien que le secret de ma présence était trahi, que, baissant les yeux de honte, je sentis la rougeur me monter au visage. Un second coup de cloche vint m'achever. Je me levai, je me rassis, je me levai encore, les yeux toujours fixés sur la cloche, que je tremblais de voir s'ébranler de nouveau. J'écoutais attentivement dans l'espérance que je l'entendrais s'éloigner. Mais un autre bruit frappa mon oreille, c'était celui des pas de mon oncle, Tom, qui bougeait dans ma chambre. Alors, la crainte plus grande encore d'être surpris par lui et en présence de la jeune fille, me troublant tout à fait, j'aimais mieux aller à la rencontre du danger que de l'attendre. Je retournai tout doucement en arrière pour paraître venir de la bibliothèque, puis je toussai et d'un pas affermi par la peur, je vins et j'ouvris. Sa gracieuse figure se dessinait en silhouette sur le demi-jour de l'escalier. « Monsieur Tom est-il chez lui ?» dit-elle. Ce furent les premières paroles que j'entendis sortir des lèvres de la belle juive. Elles résonnent encore à mon oreille, tant eut de charme pour moi le son de cette voix. Pour le moment, quoique la question ne fût pas compliquée, je n'y répondis rien, moins par adresse pourtant que par trouble, et je me mis gauchement à la précéder vers la bibliothèque où elle me suivit. J'allais, sans me retourner, jusqu'à la table de mon oncle. J'aurais désiré que cette table fût bien loin, tant je redoutais le moment de rencontrer son regard. À la fin, je la vis. Elle me reconnut et rougit. Où était ma harangue ? À mille lieues. Je gardai le silence, plus rouge qu'elle, jusqu'à ce que, la situation n'étant plus tenable, voici comment je débutais. « Mademoiselle !» Et j'en restais là. « Monsieur Tom ? » reprit-elle. Puis, surmontant son embarras, « je reviendrai puisqu'il n'est pas là. » Et après s'être légèrement inclinée, elle s'en allait, me laissant tellement hors de moi que je songeais à la reconduire qu'après qu'elle eut déjà franchi le seuil de la bibliothèque. Alors seulement je me pressais sur ses pas. Elle était troublée, moi aussi. Et pendant que, dans l'obscurité du vestibule, nous cherchions ensemble à ouvrir la porte, nos mains s'étaient rencontrées. Un frisson de plaisir circula par tout mon corps. Elle sortit, je restais seul, seul au monde. À peine fut-elle loin que ma harangue revint tout entière.